Ce soir, portrait de Laure Prouveau, artiste de 40 ans, reconnue déjà internationalement et exposée dans les grands musées, et qui représente cette année la France à la Biennale de Venise. Artiste, poète, cinéaste, bricoleuse de génie, Laure Prouveau a le talent de nous embarquer dans son univers et de nous émouvoir par les thèmes qu'elle choisit. La fraternité, l'intensité de la vie, la beauté du monde. J'ai eu la chance de pouvoir la rencontrer il y a quelques jours, à Venise, tout près du pavillon français. Mais tout de suite, nous allons commencer en musique, avec une musique entêtante, qu'elle va d'ailleurs nous faire entendre à l'intérieur du pavillon français. Nous allons donc commencer en musique avec Toto Cutugno, l'Italiano.
Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare, sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente e un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare, perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Buongiorno Italia che non si spaventa, con la crema da barba la menta, con un vestito gessato sul blu e l'amo viola la domenica in tv. Buongiorno Italia col caffè ristretto, le calze nuove nel primo cassetto, con la bandiera in tintoria e una 600 giù di carrozzeria. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare, perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Lasciatemi cantare, perché ne sono fiero, sono un italiano, un italiano vero.
Voilà, on va commencer, on va dire d'abord l'endroit où nous sommes, nous, les deux Laure Prouveau, on est où ?
On est sur l'herbe, déjeuner sur l'herbe dans un petit parc à l'arrière du pavillon danois.
Difficile de s'échapper de chez nous, comme vous dites, c'est-à-dire du pavillon français, parce que vous êtes encerclé et vous êtes victime de votre succès dès la Biennale d'art contemporain de Venise ouverte. C'est l'affluence chez vous, pour vous.
Oui, c'est touchant de voir que les gens sont touchés, qu'ils aient envie de rentrer par les petits coins du pavillon français, qui d'ailleurs, vu qu'on a fermé la porte principale et qu'on propose aux gens de découvrir le pavillon par la porte de la cave de l'arrière. En plus, on a d'ailleurs écrit une chanson avec Flavien Berger ou avec Paul Buck, qui est un poète fantastique aussi. Dans la chanson, il y a les paroles « Join the queue, join the queue, no shampoo, no shampoo ». On a fait un peu d'humour autour de toute la situation, de l'idée de venir voir quelque chose aussi. C'est un peu cette frénésie du monde autour d'un événement comme celui-ci qui est assez extraordinaire.
Qu'avez-vous fait cette nuit, Laure Prouvot ?
Ah,
j'ai dormi.
Non. J'ai dansé, c'est pour ça que j'ai un peu la voix cassée. On a dansé, on a fêté notre travail, on a invité nos musiciens qui ont joué pour tout le monde. On avait même notre fanfare qui est venu de Haute-Rive, qui nous a accompagnés jusqu'ici. Donc c'était une belle fête de célébrer le travail, pas mon travail, mais vraiment le travail de tout le monde. C'est un travail très collectif qui s'est fait. C'est vraiment, pour moi, ce travail, l'argent qu'on a dépensé, c'est les gens, quoi. C'est que ça, c'est que les gens. Il y a quelques objets, quelque chose physique, bien sûr, dans l'espace, mais c'est d'avant tout cette aventure, c'était les gens, les rencontres.
Pour parler de votre travail, vous dites nous et pas je.
Ben nous, sur ce travail, sur cette œuvre-là, c'est vraiment nous. Et c'était un ensemble, vraiment un travail. Bien sûr, c'est moi qui, quand même, j'ai écrit, j'ai monté le film. Enfin, ça reste une œuvre, sans doute d'une vision, mais d'une vision accompagnée de plein de monde et plein de cerveaux assez extraordinaires. J'ai l'impression de des petits cerveaux qui se tournent autour de moi tout le temps, qui flottent là. Il y a plein d'intelligence et d'amour. J'étais entourée de... Si le projet ne marchait pas, c'était vraiment de ma faute parce que j'avais tout pour que ça marche, quoi. J'avais vraiment un soutien, les gens qui croyaient au projet, des femmes fortes autour de moi, des galeristes qui m'ont soutenue, la France qui m'a soutenue du début à la fin, mes assistantes incroyables, Martha Kiesenbaum, ma curatrice qui est une force de la nature aussi, avec qui on avait déjà fait un projet ensemble, donc je savais qu'à deux on pouvait faire quelque chose de fort et de beau, enfin on essayait en tout cas, on ne savait pas ce que ça allait donner, on ne sait jamais quand on crée une œuvre. On se sent très vulnérable, c'est intense le moment où on dévoile, on ne sait pas si on va toucher quelque chose ou si nous on s'est perdu nous-mêmes. Et en même temps, je crois que c'est ce qui est beau, c'est de se rendre vulnérable. C'est la seule façon de partager des choses, je crois, avec le monde.
Artiste, vous dites artiste, vous l'êtes depuis quand ?
Je crois que très très jeune, j'avais... J'étais tellement pas douée dans les autres choses que j'avais toujours moins 20 en orthographe, en français, j'avais beaucoup de mal. Les maths, ça passait tout juste. J'étais un peu rêveuse, quoi. Ma grand-mère était assez... Ma mère aussi très visuelle. Mes parents sont surtout très inventifs.
Ils sont artistes,
ils sont... Non, ils sont... Mon grand-père, vous savez, c'est un artiste conceptuel qui a creusé son tunnel et qui n'est jamais revenu.
C'est pas votre vrai grand-père.
Ça, c'est un grand-père. Hein. Il y en a beaucoup, des grands-pères.
C'est un plus que vrai grand-père que vous avez inventé.
C'est un vrai.
C'est un vrai.
C'est un vrai parce qu'il vit dans mon histoire. Mais mes parents, ouais, ils sont... Il y avait l'art était quand même... faisait partie de ma vie. Il y avait des tableaux chez nous. Il y avait des choses que j'ai... Et puis, je m'étais dit, un jour, peut-être, j'aimerais beaucoup être une artiste, je crois. J'avais envie parce que...
Vous avez créé une langue?
Ouais, j'ai un peu créé mon langage, mais bien sûr, et c'est ce qu'on fait dans l'art, quand on crée c'est des traductions. Moi, je crois que je traduis des émotions, mon œuvre traduit quelque chose, où j'essaie comment on peut traduire le soleil qui nous touche au visage, cette sensation hyper agréable, ou comment on la traduit en une œuvre, qu'est-ce que ça, comment on peut faire ça. C'est uni à la fin, souvent c'est de la vidéo et c'est des images plates, c'est des pixels, c'est plat, mais avec le son, il y a le subconscient, il y a plein de choses, on peut trigger, faire venir en avant des sensations. J'aime bien quand les gens disent, oh, tes films ils sentent mauvais, ou tes films ils sont acides, ou si les films peuvent être plus que juste ces pixels et qu'ils arrivent à traduire des sensations assez physiques, qui sortent d'eux-mêmes, quoi, qui sortent du pixel. Et pourtant, ils parlent souvent, mais dans mes vidéos, je parle de ça, qu'on est dans le pixel, on est coincé dans l'image, qui essaie de nous parler, qui veut être plus qu'une image, qui aimerait être comme nous, vraiment assis sur une chaise, mais elle n'est qu'une image, donc elle est un peu frustrée, ou elle a envie de nous toucher plus au plus profond, ou bien que les murs de cette pièce nous sentent, nous respirent, ils sont là, ils sont comme s'ils ont une présence plus que ce qu'ils sont, quoi.
Donc en fait, c'est d'abord à partir de la sensation et des émotions qu'on peut ressentir à partir des sensations que nous avons que l'œuvre s'élabore, leur prouveau.
Si on parle de ce projet ici, c'est ça commence par le lieu souvent, par l'invitation, quoi, où je vais exposer. Là, j'ai une expo à Mouka, j'ai fait pas mal d'œuvres autour d'Anvers, d'où j'habite en ce moment. Et là, à Venise, dès qu'on m'a invité, c'était extraordinaire de pouvoir réfléchir à l'idée de la représentation. Qui je suis, pour moi, c'était ça tout de suite. Vu qu'en plus, je suis partie assez jeune, en Angleterre, après en Belgique. Même j'avais fait mes études à partir de 13 ans en Belgique, donc il y avait déjà... J'étais déjà un peu une étrangère dans mon pays et en même temps vraiment française. Enfin, c'est des choses assez complexes à l'intérieur de soi. Et j'ai voulu en parler d'une façon très large, quoi. Comme qu'est-ce qu'on représente? Qui sommes-nous? Femmes dans une biennale qui a été qui a surtout soutenu les hommes pendant des siècles. Il y a plein de points de vue, quoi. On représente quoi? On représente la femme, on représente l'idée d'une nation. Qu'est-ce qu'on représente? On représente les gens. Qu'est-ce qu'est la nation? Une de mes dernières phrases, c'est « We are now like birds who don't belong to any nation. Could we... » Il y a un côté un peu idéalistique. Hein. Et puis, je crois qu'aussi, je voulais représenter un peu l'étranger. Mais l'étranger dans sa force pour la nation, dans son inventivité aussi, parce que je crois, je cherche mes mots des fois ici. Quand on avait beaucoup utilisé des phrases françaises décalées qui ont été créées des siècles en arrière, occupez-vous de vos salades, on va vous raconter des salades, occupez-vous de vos oignons, je vais ramener ma fraise. Toutes ces choses dès qu'on a un petit peu de distance, elles deviennent complètement surelles. Quand on les traduit en anglais, take care of your onions, like, personne là, qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est quoi tout ça? Donc d'avoir un décalage par rapport à une culture, la mienne ou pas, ou les gens qui arrivent. Mais d'un côté, c'est pas, lui il est différent, elle est différente. It's a joy or difference. Hein, c'est la beauté de. Je voulais vraiment que ce soit ça, et c'est aussi avec les générations d'essayer de mélanger. Je voulais absolument que les générations se mélangent, qu'il n'y ait plus le vieux, le jeune, on soit un, on est un, on est là, on est très présent, donc il y a tout un courant sous le projet qui est autour de l'octopus, qui serait cette sorte de métaphore du projet un peu où on est le film et le corps vide un peu. Et les personnages qu'on a rencontrés sont ces tentacules qui... Ce que j'aime beaucoup dans l'idée de la Life Pieuvre, c'est que les tentacules sentent... ils ont leur cerveau, les pieuvres ont le cerveau dans les tentacules, donc c'est très très direct. Par contre, ils n'ont pas de mémoire, donc ils ne peuvent pas vraiment évoluer comme l'humain. Et donc, on sent et on pense, quoi. C'est très très immédiat. Et je voulais un peu que tout ce qu'on a fait nous ensemble, le travail, c'était vraiment ça. On sent, on pense, on sent, on pense, on sent, et on oublie, on continue, et on se loupe. Il y a un loop. C'est, le film est un loop de 20 minutes qui se répète et qui touche d'autres gens et que j'espère les gens en sortent en voulant toucher d'autres gens, un peu comme des tentacules qui s'éparpillent dans le monde. C'est très idéalistique et idéalistique dans les fautes, dans l'imparfait, quoi, que l'imparfait est beau, quoi, que moi, quand j'ai commencé aussi mon travail en anglais, c'était plein de spelling mistakes, plein de... J'ai beaucoup joué sur mes comprendre, et d'un seul coup, ça devient beaucoup, très poétique aussi, où ça ouvre aussi beaucoup de portes. Hein. Après, il faut bien l'utiliser. Des fois, on se sent aussi très isolé, très déconnecté, mais on peut aussi... et c'est vraiment une... Pour moi, c'est une... je veux donner de la valeur à ça, parce que ça fait partie de nos sociétés, de notre vie, et c'est aussi important que presque la norme, je crois, qui est dedans, soutenir les différences. En Angleterre, j'ai été aussi là-bas au début parce que j'aimais beaucoup l'excentricité, les gens, d'être soi. Et là, c'est beaucoup des personnages qu'on a rencontrés qui sont vraiment des individus. On a rencontré un professeur incroyable qui a créé ces jeux pour les enfants, qui était dans un système et l'a un peu perverti ou l'a questionné ou l'a réinventé son système à lui dans le système. Et ça me touche beaucoup. Il a créé des chats des mitres incroyables et raconté l'histoire de l'humanité. Il apprend les mathématiques, les petites voitures électriques aux enfants. Enfin, c'est quelqu'un. Puis apprend un danseur, Nicolas, qui est aussi extraordinaire, qui est très très sensible l'un l'autre, et il voit pas bien lui-même, mais on voit vraiment qu'il sent tout. Sans avoir besoin de voir, il est même plus fort. Et vraiment, après, il y avait Rameau, qui était notre guide. Et on a rencontré plein de gens sur la route, un magicien, Kader Bueno, qui est extraordinaire. Et d'un seul coup, on discutait, d'un seul coup, on voit ce mec qui commence à faire voler des tables, à sortir des oiseaux des tableaux. Tout devenait un peu magique, alors qu'on parlait quand même de la fin de l'industrialisation, du début du progrès, mais en même temps, comme on arrive maintenant sur toutes ces choses plastiques, la goutte tenait dans nos mains, pour qui enregistre la technologie, qui dégouline de partout, qui nous recouvre aussi. Tu vas en parler vraiment de ce sujet-là, et d'un seul coup, nous fait voler. Donc, une sorte de respiration de tout ce qu'on ressentait dans le lieu là-bas. Donc on a commencé d'abord à Nanterre, les tournuages, et un lieu qui était folle. Puis il fallait commencer par Paris parce que l'invitation venait de là, et ça reste un pays centralisé. C'est juste un fait, quoi. Je voulais que le fait soit là et qu'on démarre là, qu'on aille à Roubaix. Et après on a échangé notre voiture contre 5 chevaux et on a galopé jusqu'à Haute-Rive. C'était extraordinaire, on est arrivé de nuit, on a filmé de nuit dans le palais idéal. C'est pour ça que le film s'appelle V palais idéal, comme le palais idéal du facteur cheval. On est arrivé là et c'est toutes les... Pour moi, c'est un lieu très important. J'avais toujours eu envie de faire quelque chose, et là, c'était vraiment une opportunité en or, parce que je savais qu'on allait me soutenir pour que je puisse travailler là-bas. Je savais qu'il y allait avoir... Pour moi, il y a à côté de l'art brut, et en général, je suis touchée. J'aime beaucoup comme Victor fait le pur désir de créer. Victor fait ses chapeaux. Moi, je fais mon art. Je crois que c'est aussi pur, mais je suis plus dans le milieu. Je suis plus dans le système quand même. Mais ce que j'aime beaucoup au facteur cheval, c'est cette idée de cet homme qui ramasse des pierres en donnant ses lettres, et qu'au fur et à mesure il crée son œuvre. Il y a quelque chose de vraiment très pur, de créatif. Et pour moi, je voulais, là, on était vraiment un souterrain de notre subconscient dans les profondeurs de l'humanité, de vouloir créer. Donc de nuit, c'était vraiment idéal de filmer de nuit, parce qu'on était vraiment dans un autre monde. Et aussi les duretés de notre monde qui ressortent là. Il y a des moments très durs où je coupe un œil, il y a des moments où... On dit qu'on vous a attrapé dans une fleur comme ça et on vous lâchera pas, qu'on a été mangé par l'image, quoi. L'image nous mange et le monde dans lequel on se met nous avale. puis à partir de là, où à la fin de la nuit, il y avait une super fanfare qui nous attendait.
Chantez-la cette chanson.
Et ça, c'est l'italiano vero. C'est très drôle, ça parle de spaghetti al dente, comme c'est très bon. Vraiment l'Italie profonde, quoi. Tout ce qu'on a envie d'entendre. Et donc eux, ils étaient là, ils nous attendaient, ils ont joué ça et on les a suivis jusqu'à Marseille. Enfin, ils nous ont suivis jusqu'à Marseille. À un moment, on a voulu regarder la mer par sa beauté déjà et penser aux mers, mais à toutes les mers. M-E-R-E ou M-E-R.
Et vous, en tant que mère?
Oui, moi aussi, en tant que mère, ce que c'est d'être, c'est une des nouvelles vies, de partager cette vie qui est belle, mais dure aussi. Et donc.
Et puis la mer Méditerranée, ouais, avec les problèmes.
Voilà.
Il y avait un moment, c'est devenu une mer où il y a des morts dedans. Ouais. On ne sait même pas combien.
Ouais. C'était vraiment un moment de méditation sur. De se sentir un peu incapable, mais aussi un lieu d'espoir, de voyage, à ce qu'on. Un changement, mais aussi beaucoup de tristesse et aussi c'était la mer qui rassemble toutes ces nations, qui se touchent tous. C'est un peu, c'est l'octopus qui est là, c'est, on se touche, il y a pas de bordure. La mer n'a pas de, à part les pays les créent, mais naturellement elle a pas de frontières, elle se mélange constamment. Il y a quelque chose de très très beau dans ça, cette liquidité qui appartient à une personne qui bouge comme elle le veut. Et aussi, qui nous ramène à Venise, en fait. C'était aussi un départ vers Venise. Il y en a qui sont partis à la nage jusqu'ici. Il y en a qui ont pris des éléphants comme Hannibal, traverser les Alpes. Il y en a qui sont venus en bateau, d'autres en avion. Et on s'est tous retrouvés ici à Venise pour réfléchir à ce qu'on allait faire. Et puis, on s'est rendu compte qu'en fait, le voyage, c'était l'arrivée.
Et c'était l'œuvre.
Et je crois que l'œuvre, enfin pour moi, tout ce qu'on fait,
tout le processus qui mène à l'œuvre et
part de se rencontrer avant les anxiétés, tout ça, tout appartient à l'œuvre et c'est au moins si beau. Toutes mes quand je travaille pour faire une expo, tout ce qui est avant, tous les gens que je rencontre, c'est aussi beau que ce que j'expose. Enfin, en tout cas, je voulais traduire ça. En tout cas, je voulais que l'œuvre parle de ça. Je voulais que l'œuvre parle de ce voyage, de ces moments où on a l'impression qu'on n'est pas arrivé, mais qui est l'arrivée, qui est vraiment aussi important, en tout cas. Ah, c'est ma grand-mère qui appelle, je crois.
Peut-être. Ouais. Je vais essayer d'éteindre ça.
Voilà. I will draw you to the deep. C'est votre grand-mère.
Voilà.
Where you never dream to sleep.
Je vais remettre ça, pardon.
My heart in the blue.
Je remets les codes, c'est compliqué.
Ouais.
Hein.
My arms away to it grew.
Ça marche.
I am me.
Oui, donc vous dites, Laure Prouveau, que l'œuvre émane de la communauté des personnes qui y ont participé. Mais en même temps, votre œuvre, et cette dernière œuvre qui représente la France au pavillon français de la Biennale de Venise, elle fait communauté aussi. Elle provoque l'idée d'une communauté. Je ne sais pas pourquoi ni comment. Est-ce que c'est ce que vous vouliez, par une émotion commune qui nous soude?
Enfin, je crois que tout artiste fait des œuvres pour l'autre, quoi. Moi, je fais pas d'œuvre vraiment pour moi, même si j'ai besoin de créer parce que je serais très malheureux sans ça. Je fais une œuvre en pensant à un échange, quoi, même si c'est un échange de mes frustrations ou un échange de mes compréhensions ou d'un.
Et vous créez tout le temps?
Je filme beaucoup. Je suis tout le temps. Mon iPhone est très très pratique. Je filme énormément sur mon iPhone. J'ai 80% des images du film, c'est sur mon iPhone. Je veux travailler légèrement pour pour laisser les choses rentrer dans le film. C'est un petit peu écrit, mais il y a aussi, c'est pas beaucoup écrit. Il y a beaucoup d'essais. On refait 10 000. On essaie plein de choses. Ah, on va monter sur l'arbre, tu vas faire ça, on va essayer ça.
Comment vous regardez le monde? Comment vous le voyez? Comment vous l'observez? On a l'impression que vous avez une caméra dans la tête.
Tout me surprend un peu. Tout est assez... j'ai un peu des fois envie d'être comme un enfant. Oh waouh, regarde. Enfin, tout est aussi dans le difficile, dans les poubelles. Qu'est-ce que ça fait là? Mais c'est beau aussi. Qu'est-ce que ça... La dureté est belle aussi. Mais c'est... Ah oui, il y a 2 jours avant l'ouverture, j'avais vraiment envie de filmer une queue, les gens qui faisaient la queue, parce qu'il fallait « join the queue », donc je vais à Saint-Marco, vite filmer une queue, parce que des fois c'est l'histoire qui demande, et des fois c'est purement des choses que je vois, les mouettes qui se battent entre elles, que j'ai filmé aussi du coin de l'autre côté, et je me suis dit c'est un moment quand... un peu dur, où everything is gone, une sorte d'agression l'un envers l'autre. Il y a beaucoup de langues.
C'est fantasque, vous êtes très drôle.
Oui, c'est assez drôle, j'espère. Ça décale un peu du... Il y a des côtés sérieux dans l'œuvre aussi, des côtés très...
Alors, parlons des côtés sérieux. Quand on rentre dans le pavillon français, par derrière, ouais. Avant d'arriver devant cette œuvre magnifique qui est votre film, et bouleversante, magnifique et bouleversante, pour toutes les raisons que vous venez d'expliquer. Avant, on rentre dans le pavillon et on va marcher sur une espèce de sol, comme si la vitrification du monde était déjà faite, comme si tout était déjà joué dans une post-apocalypse.
C'est vrai, c'est un peu le fossile de notre temps, je crois. Je voulais... D'abord, on arrive par le sous-sol où c'est la terre, vraiment. On rentre par un tunnel. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai commencé à creuser un tunnel pour rester connecté avec les Anglais.
Mais on ne m'a pas autorisé à rentrer dans le tunnel. Ouais, il paraît qu'il rejoint, l'Angleterre.
Oui, je voulais, c'était un petit clin d'œil parce que je me sens presque aussi anglaise, la moitié. Je me sens très connectée.
Mais il n'est pas loin,
le pavillon anglais. Ouais, et puis j'y habitais longtemps. Et donc, je voulais, avec Brexit, on était tellement tristes que je voulais qu'on reste connecté au moins d'une façon... éphémère, comme ici, qu'on soit ensemble. Mais c'est juste un petit clin d'œil, ça fait à peine partie de l'œuvre pour moi, mais c'est un clin d'œil. Et après, en haut, c'est vrai que c'est le sol résiné, donc c'est du plastique qui brille comme une eau de lagune, de canal vénitien qui s'est fossilé avec dedans plein d'objets en verre que j'ai produit à Murano, ici à Venise, avec Berengo, qui nous ont produit. C'était extraordinaire. Je dis, oh, je peux avoir un. Vous pouvez me faire un pigeon qui a une cigarette dans la bouche. Et puis le jour d'après, j'avais le pigeon et la cigarette. Ben, c'est très, très vivant, très, très réactif par rapport à ce que je... Vous pouvez me faire des poissons qui sont dans l'eau, vous pouvez me faire des iPhones qui sont... Il y a des iPhones en verre magnifiques. Donc ouais, c'était vraiment ça. J'ai voulu un peu fossiler un moment dans le temps et puis... Les poubelles aussi, tout ce qui est considéré sale, coincé là, mais ce qui est aussi très beau d'une certaine façon. Et là, à partir de là, on rentre dans le film, donc c'est vraiment, comme je parlais de la pieuvre, vraiment le corps du projet, mais qui est vide. Hein, il y a juste des pixels on s'assoit sur des sièges qu'on a construit en béton aussi, qui sont des sièges que... qui ont qui parlent du palais idéal. On a recréé vraiment une identité assez qu'on peut bien reconnaître, où on peut tous s'asseoir. Et là, c'est le film, il est vide, mais c'est les personnages dedans qui sont des tentacules qui et les deux salles qui s'accolent à l'œuvre centrale sont les résidus du film. Et là, les choses se coincent dans les... Comme si les tentacules étaient coincés au bord d'une rivière, et puis il y a plein de choses qui restaient du film qui s'est accroché. Il y a une très grande tapisserie que ma grand-mère m'a fait, elle m'a aidé à produire. Il y a quelques personnages du film qui sont là, qui dansent avec les objets, qui sont présents.
C'est de l'art vivant, parce que les performeurs sont avec nous. On vient de les voir dans le film que vous signez, et en même temps, ils sont là quand on sort du film.
Oui, j'avais envie.
Et cette idée-là est extrêmement troublante.
Ah oui, oui, mais c'est le pixel qui devient vrai. Non, en plus, c'est vrai, regarde, on est là, on est tous là, regarde, c'est vrai, c'est pas que de l'image. Je fais pareil avec les objets, pour moi, ces objets, ils sortent du film et... Look, this story is true. It's a true story. C'est une vraie histoire. Regardez, vous êtes assis dessus. Vous faites partie. Et là, avec les gens que j'ai rencontrés, les personnes que j'ai rencontrées, c'est eux aussi qu'on avait envie qu'ils soient là, qui renforcent cette œuvre grâce à leur présence, à leur magie, à leur. C'était important qu'ils soient là. Après, je perds complètement contrôle. Ce qui est si intéressant aussi, c'est que là, l'œuvre leur appartient. Ils décident de leur mouvement. Il y a des fois des choses un peu... je me dis, oh là là, qu'est-ce qu'ils font ? Ce qu'ils font ? Mais en même temps, c'est génial parce qu'on est plein de gens, on est tous différents et qui répondent eux-mêmes à l'œuvre. Donc, c'est un peu... C'était ça aussi. C'était un vrai... un dialogue entre les œuvres, entre le film, entre les gens, entre vous, l'audience, les visiteurs.
Alors, vous venez d'évoquer votre grand-mère. Tout à l'heure, vous avez parlé de votre grand-père. Mm-hmm. Vous avez inventé ces deux personnages qui sont vraiment vivants, en tout cas à l'intérieur de votre œuvre, mm-hmm. comme des sortes de fétiches, de totems, de raconteurs d'histoires, de supports de votre imaginaire, alors pour vous. Mm-hmm.
On a tous une histoire, on a tous qu'ils soient vivants ou pas, elle est là. Et les grands-parents, pour moi, c'est l'histoire la plus crédible, la plus vraie, parce que on les a rencontrés ou pas, mais c'est l'histoire la plus proche qu'on a et qui c'est mieux que les livres d'histoire pour moi. C'est important. C'est pour ça que j'ai. Il parle assez souvent du passé, aussi bien du futur et de l'avenir, mais le passé, pour moi, c'est qui on est aussi, c'est grâce à eux. La grand-mère est très présente parce que aussi, c'est l'histoire de l'art, c'est la femme qui était un peu, qui était toujours cachée quand même si elle était forte, elle n'était pas mise en avant. Et ma grand-mère avait beaucoup d'importance, je veux toujours montrer ses œuvres parce que c'est ma génération qui finalement a reçu. La liberté de pouvoir vraiment s'exprimer ou participer à ce jeu culturel, à ce jeu. Et donc, ma grand-mère a beaucoup d'importance. Il y a aussi mon grand-père, cet artiste conceptuel, qui souvent, il se sent mal compris. C'est plus l'histoire de l'artiste, mais pas compris, mais avec beaucoup d'humour, il veut être compris. Ma grand-mère, elle essaie d'améliorer tout ce qu'il fait en faisant en rendant plus beau ces tableaux. C'est de l'humour dans tout ça, mais il y a aussi un autre. Puis aussi qu'on travaille ensemble en famille, enfin des familles fictives ou pas, on travaille grâce à des gens qui nous entourent, à des histoires qu'on a eues. On arrive où on est grâce à sans doute beaucoup de choses derrière.
Humour, émotion, fragilité, très grande intensité en voyant votre travail, et ce depuis pas mal de temps, mais dans cette œuvre que vous signez à la Biennale de Venise, il se passe quelque chose d'assez bouleversant, parce que vous parlez du monde que nous vivons, dans lequel nous vivons, mais vous en parlez avec vos matériaux à vous, comme si on était embarqué dans votre vision, qui est notre vision, mais qui agrandit chacune de nos visions. Est-ce que vous pensez que l'art a une fonction? En tout cas, là, vous réussissez à provoquer une très grande émotion qui s'accompagne aussi d'une sorte de prise de conscience. Ou est-ce que vous n'assignez aucune fonction à l'art?
En tout cas, l'art m'aide, moi.
À vivre.
Moi, c'est sûr. Sans l'art, j'aurais eu beaucoup de mal à vivre, je crois, et c'est de pouvoir répondre à la vie. Après, je crois que l'art peut avoir énormément de fonctions. Après, je veux pas qu'elle soit éducative. C'est, je crois pas que ça, c'est, l'art doit être forcément éducatif ou articuler les choses, mais l'art nous fait sentir le monde quand même. Ça nous, je dis toujours que la vie, c'est toujours la vie est plus belle que l'art. Enfin, la vie est, on essaie de traduire la vie. Que c'était toujours plus extraordinaire qu'une œuvre. Hein, que c'est que mon art, il est en compétition avec la vie et que. Mais qu'en même temps, il peut provoquer la vie aussi, je crois. Donc, c'est les deux ensemble qui font qu'il y a il y a quand même quelque chose qui peut se passer. On peut regarder les choses différemment. Grâce à l'art, on peut se repositionner sur des façons de penser aussi, sur des points de vue. Je crois que oui, l'art est d'ailleurs devient de plus en plus dominant, je crois, dans nos sociétés, en tout cas western, et c'est des nouvelles religions, quoi. Même si c'est pas, je travaille beaucoup l'idée de la relique aussi, de l'objet qui reste, qui tient, qui nous rappelle que non, il était ici à ce moment-là, cette personne, cette chose, c'est un peu les nouvelles églises qui, bien sûr. Lieu de réflexion, d'un peu de philosophie des fois, mais aussi des fois juste d'humour ou de ridicule ou de. Je crois en l'art. Je crois que l'art doit être très très présent aussi dans les écoles. Moi j'avais beaucoup de mal avec le système où justement on considérait toujours l'art comme le truc en dessous. C'était le moins marqué, toujours les mêmes. Et je crois que la musique et l'art, inventer, sentir, ça ouvre la tête. Et je crois que c'est aussi important que les maths, que le français. Et que ça peut, je crois que nos sociétés doivent évoluer pour laisser l'individu aussi se chercher, se découvrir et pas this is the way, c'est comme ça. Et c'est pour ça que aussi dans ce projet, c'est l'individu qui compte pour moi dans le groupe, quoi. C'est la personne. C'est se trouver et être aidé à se trouver, quoi, c'est sûr.
Vous nous donnez la sensation de l'intensité de la vie que quelquefois on perd en vivant, tout simplement.
Des fois, on est submergé de plastique, de points de vue. Bah, c'est une vie tellement intense. En vrai, on est vraiment dans une société, dans une extase. Et je crois que l'humanité est en complète d'extase, on veut tout vivre, on prend des avions, on veut rencontrer plein de gens, on est un peu restless, on n'arrive pas, et le danger c'est qu'on se touche plus, quoi. On n'a plus le temps, ce qui est très beau c'est qu'on se cherche, on se mélange, on essaie de se comprendre, mais il y a aussi le fait que ça peut nous, on sait pas s'arrêter, quoi, it's crazy, mais voilà.
Et le soleil nous a quittés.
Voilà, nous nous retrouvons dans l'ombre. Ce qui va se passer quand toute cette saga va s'éteindre, on va pouvoir se cacher dans l'ombre.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup. C'était une belle rencontre et une belle conversation.
Je suis contente.
C'est bien de l'or. Merci pour vos belles questions, très claires.
J'ai dit des choses que je pensais pas. Accélérant ma mise à mort. La vie d'avant ne m'allait pas. Évidemment que j'avais tort. Téléphone-moi encore. Je promets que je ne répondrai pas. Et ça me dévore. Je ne veux pas voir ça.
Transformation.
Thank you.
Et c'est avec le chanteur qui accompagne l'œuvre artistique de Laure Prouveau depuis longtemps, et plus particulièrement dans ce pavillon français à la Biennale d'art contemporain à Venise, Flavien Berger, que nous allons nous quitter. Ce titre s'intitule « Castelmore » et je voudrais aussi préciser pour toutes les personnes qui n'auraient pas la chance ni la possibilité d'aller à Venise qu'un catalogue de l'exposition de Laure Prouveau vient juste de sortir chez Flammarion et qu'il est magnifique. Merci à Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux. Merci à Anne-Sophie Dazard, Mathilde Verfailly et Pierre Dindy. Et merci à Lilian Allôme qui, comme chaque soir, a réalisé cette émission.